Bonjour à toutes et à tous. Je réitère la bienvenue aux visiteurs et la bienvenue aux habitués aussi. J'espère que cette pluie vous rafraîchit après les grosses chaleurs. Semaine dernière, nous avons, comme ça a été rappelé, considéré quelques passages du livre du prophète Michée. Et c'est ce que nous allons continuer à faire ce matin. Machin, il marche. Il veut pas. En trois parties. Quelques petits rappels. Un questionnement sur la forme et ou le fond. Et puis, après, quelques réflexions sur le vrai culte que Dieu attend de nous. Ah, la technique, c'est bien quand ça marche, mais ça m'énerve quand ça marche pas. Passe à la suivante, Pedro, s'il te plaît. Je rappelle l'essentiel en quelques mots, dans les rappels, pour nous rafraîchir la mémoire ou présenter le contexte à ceux qui n'étaient pas là. Michée est un prophète contemporain du prophète Ésaïe, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit dans les années moins 700 et quelques. C'était à l'époque où Samarie, capitale du royaume d'Israël, au nord, est attaquée et détruite par les Assyriens, comme annoncé par Michée. Mais après plus de 200 ans d'avertissement de la part de Dieu, à cause de l'idolâtrie des rois et du peuple aussi. C'est aussi à l'époque où Jérusalem, capitale du royaume de Juda, est aussi attaquée par les Assyriens, comme également annoncé par Michée. Mais elle n'est pas détruite parce qu'il y a une intervention divine, miraculeuse de Dieu contre l'armée assyrienne. Et c'est cette armée assyrienne qui, elle, est détruite en grande partie. Et je vais le rappeler dans quelques instants pourquoi. Je rappelle aussi, les trois grandes applications pour nous que j'avais essayé de faire ressortir. Qui n'est pas mis dans le même ordre que la semaine dernière, mais peu importe. La première, prier pour les autorités. Prier pour les autorités. L'attitude et les actions des autorités peuvent avoir un impact énorme sur une nation. Samarie et le royaume d'Israël ont été détruits parce que les rois d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le peuple n'était pas innocent non plus, mais ces rois ont donné une impulsion négative à tout le royaume d'Israël, malheureusement. A l'inverse, Jérusalem a été préservée, et il y a eu ensuite plus de 100 ans de répit qui ont suivi grâce au changement d'attitude du roi du Juda, au roi Ézéchias, qui s'est humilié devant Dieu, donnant une impulsion positive dans tout le royaume de Juda et permettant un réveil spirituel avec un grand nettoyage de toutes les pratiques idolâtres. Ainsi, Dieu fait preuve de miséricorde, de grâce, de fidélité. Il est lent à la colère, comme on l'a souligné la semaine dernière. Si nous faisons notre part en reconnaissant nos fautes, si nous faisons aussi le ménage dans nos vies. C'est ce que Ézéchias a fait, et c'est ensuite ce que Dieu a fait aussi. Oui, les leaders peuvent avoir un grand impact, en bien ou en mal. Prions donc pour nos autorités. Soyons de fervents intercesseurs pour la justice, l'équité, la droiture et un renouveau spirituel dans le pays. Soyons de fervents intercesseurs pour de la justice, de l'équité, de la droiture et un renouveau spirituel dans le pays. Deuxièmement, on avait vu, peut-être que c'est le premièrement, faire un examen de conscience personnelle. C'est vrai, mais on n'est pas trop mal, on est quand même justifié en Jésus-Christ. Mais c'est par la grâce de Dieu, et ne manquons pas, même moi le premier, d'écouter les avertissements de Dieu. Ne manquons pas d'humilité spirituelle et sachons nous examiner régulièrement et ne pas nous aveugler. Laissons le Saint-Esprit révéler et agir dans nos vies. Et le troisième point, les autres qui sont liés étroitement, bien évidemment, soyons conduits par le Saint-Esprit. Ça a été rappelé tout à l'heure, ce verset-là. C'est ce que Michée vivait. Je le relis encore, Michée 3, verset 8. « Moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité, de courage. » Pour Michée, c'était pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël, son péché. Et moi, j'ai fait un petit plagiat pour nous en disant « Moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force, d'équité et de courage pour faire la volonté de Dieu dans et par ma vie, quelle que soit cette volonté, qui peut aussi être de dénoncer le mal, mais peut être bien d'autres choses encore, bien évidemment. » Ah, je toujours pas travaillé. Tu peux mettre la celle où il y a la partie B, hein, ça doit être la numéro 4. La forme et où le fond. Je vous laisse comme ça. Voilà. Grâce à l'Esprit de l'Éternel. Michée a été inspiré pour transmettre pas mal de choses à Israël et Juda. Et c'est vrai que, comme nous l'avons vu, beaucoup de ces choses n'étaient pas très agréables, et plutôt des accusations, des reproches, des annonces de jugement et de destruction. Mais il y a aussi bon nombre de promesses, prophéties d'un avenir de rétablissement et de renouveau, des annonces messianiques également dans le livre de ce prophète Michée. Et moi, ce qui a retenu mon attention, et c'est sur quoi je voudrais attirer la vôtre ce matin, ce sont quelques versets du chapitre 6 qui peuvent peut-être nous surprendre. Michée, chapitre 6, à partir du verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur ? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes ? Avec des taurillons d'un an ? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression ? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché ? Il t'a fait connaître... Passe la suivante, pardon. Il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Je ne sais pas si c'est une difficulté pour vous, mais si je trouve que s'il y a quelque chose dans toute la théologie de l'Ancien Testament, dans cette ancienne alliance, qui nous est peut-être parfois difficile de cerner, de comprendre, notamment d'en comprendre l'utilité, tant nous sommes désormais dans d'autres dispositions, dans un autre rapport à Dieu, ce sont tous ces sacrifices, ces holocaustes et autres offrandes d'animaux qui étaient exigées des Israélites pour avoir l'agrément, le pardon et la faveur de Dieu, car c'était effectivement des prescriptions données par Dieu lui-même. Et pourtant ce texte de Michée, qu'il écrit bel et bien sous l'inspiration du Saint-Esprit, semble montrer que ce n'est pas ce que Dieu veut. Est-ce déjà de la part de Dieu des prémices d'une introduction à la théologie du Nouveau Testament qui abolira tous ces besoins de sacrifices rituels ? D'autres passages dans des livres prophétiques sont encore plus précis et vindicatifs, me semble-t-il, dans la matière, et notamment chez Isaïe, le collègue et contemporain de Michée. Est-ce que l'un a copié sur l'autre ? Ou se sont-ils concertés pour écrire les mêmes choses ? Certains aiment le penser. Moi, je crois surtout que c'est le même esprit, le Saint-Esprit, qui animait à la fois Isaïe et à la fois Michée. Alors c'est normal que le message qui leur a été transmis comporte des similitudes. L'être humain étant dur d'oreille, et surtout ayant la tête dure et le cœur endurci, il n'est pas inutile que Dieu transmette et répète son message plusieurs fois et par plusieurs personnes. Le texte parallèle d'Ésaïe est tellement explicite que je vous propose aussi qu'on le lise. Ça sera mieux que tout ce que je pourrais dire. Ça, c'est définitivement perdu. Ésaïe, au premier chapitre, Je l'ai lu, ce premier verset, pour rappeler le contexte des rois qui régnaient pendant Ésaïe, qui sont les mêmes que Michée, avant de passer au verset 10. Ésaïe, chapitre 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, qu'il eut sur Juda et Jérusalem, au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 10. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Déjà, j'imagine que les Juifs ont dû être contents d'entendre ça, de se faire insulter et traiter de peuple de Gomorrhe et de Sodome, eux qui sont Juifs, eux qui se vantaient d'être le peuple élu de Dieu. Ça montre bien que Dieu avait quelques petits reproches à leur exprimer. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit le Seigneur. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple ? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives, elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais. Cessez de faire du mal, apprenez à faire du bien, cherchez l'équité. Redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme de la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. Si vous voulez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par l'épée. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Dieu a-t-il changé d'avis ? Dieu est-il contre les holocaustes et les sacrifices qu'il a lui-même instaurés ? Les trouve-t-il vraiment inutiles ? Certains ont vu dans ces passages, effectivement, une remise en question de tout le système sacrificiel codifié dans la loi de Moïse. Mais c'est une compréhension erronée de ces passages. Pas du tout, ce n'est pas le sujet. Dieu ne change pas, nous l'avons suffisamment souligné et martelé ces derniers temps, et il ne s'est pas trompé en instituant toute la loi de Moïse. En attendant la venue du sacrifice ultime et suprême, le seul à avoir une portée universelle et éternelle, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, oui, les sacrifices d'animaux sont toujours utiles, nécessaires, indispensables même. Ils sont bel et bien requis par Dieu selon la prescription de sa loi, utiles, nécessaires et indispensables pour l'expiation des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit un verset. En attendant le Messie, c'est bien le sacrifice d'un animal qui remplit cet office. Simplement, Dieu est, a toujours été et sera toujours contre la religiosité, contre la superstition et contre l'hypocrisie spirituelle. Les contemporains d'Ésaïe et de Michée se disaient en eux-mêmes « C'est bon, j'ai fait mon offrande, j'ai fait le sacrifice demandé, j'ai suivi la prescription légale, je peux bien continuer à vivre ma vie comme je l'entends, à faire ce qui me semble bon, pour reprendre une expression du livre des juges, même je peux continuer à pécher. » Et les prophètes soulignent, et Michée le souligne dans son livre, que beaucoup faisaient cela sciemment de pécher. Je peux continuer tranquille jusqu'à l'observance de la prochaine prescription, jusqu'à la prochaine lune, jusqu'à la prochaine convocation. Oui, Dieu est certainement satisfait. J'ai fait le rituel qu'il a prescrit. Dieu est certainement satisfait. J'ai fait le rituel qu'il a prescrit. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ? Évidemment non. Un holocauste pour le péché n'a de sens profond et n'est agréable à Dieu que s'il est le fruit d'une repentance sincère. Un sacrifice de culpabilité ne sert à rien si celui qui l'offre ne se sent pas ou ne se croit pas coupable. Même du temps de l'ancienne alliance, le cœur compte, pas juste la forme. Religieux à l'extérieur, mais plein de péché à l'intérieur, Dieu ne l'agrée pas. Et c'est bien sûr encore vrai aujourd'hui. Parmi nos contemporains, beaucoup ne sont-ils pas encore religieux, superstitieux ou spirituellement hypocrites ? Oui, c'est bon, je suis allé à la messe pour de grandes occasions, j'ai fait les sacrements demandés, ou j'ai fait le jeûne qu'il faut, ou le pèlerinage qui était attendu de moi. À part ça, je peux continuer à vivre ma vie comme je veux. Peut-être est-ce même parfois notre cas aussi ? C'est bon, j'ai lu ma Bible, je suis allé au culte. J'ai même prié. J'ai donc bien coché toutes les cases du formulaire du bon chrétien évangélique. Dieu sera content de moi. Mais bon, en attendant, je continue quand même à diriger ma barque sans lui. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, donne un peu le même genre d'avertissement. Il y a un passage de Galates qui a été lu tout à l'heure, on va en lire un autre. Si tu veux passer à la numéro 11, Pedro. Galates. Galates 6, versets 7 et 8. « Ne vous faites pas d'illusions, on ne se moque pas de Dieu. » D'autres traductions, « Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. » Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera lui ce que produit l'Esprit, la vie éternelle. Bref, vous avez compris le message. Si le cœur sincère n'y est pas, s'il n'y a pas le fond, alors la forme ne sert à rien et à rien du tout. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 3000 ans, du temps de l'Ancien Testament. Et les avertissements bibliques vont même plus loin. Car même s'il n'y a pas de mauvaise intention, même s'il y a sincérité, s'il y a de la part de la personne concernée une réelle conduite morale au-dessus de tout reproche, une réelle volonté de bien faire, même ça, ça ne suffirait pas pour être agréable et agréé par Dieu. On a souvent du mal un peu avec ça, hein. Mais c'est bien et bien la définition même du salut, selon ce que nous en dit la Bible. La Bible affirme haut et fort que personne ne sera sauvé par ses propres œuvres, même si elles sont belles et bonnes à 99,9%. Ce petit pouillem, là, la quantité infime du mal que nous avons pu faire ou que nous faisons, nous savons que la quantité infime, elle est plutôt grosse comme ça, hein ? Cela nous disqualifie devant Dieu. Une seule mauvaise œuvre, s'il pouvait y en avoir qu'une, tout au cours de notre vie, nous disqualifie devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit un autre verset. Mais nous sommes tous pécheurs encore, même quand nous sommes devenus chrétiens. Alors c'est la catastrophe. Nous sommes toujours pécheurs, c'est vrai, mais depuis, et j'espère que c'est le cas, ça nous pèse. Nous n'en sommes plus et pas satisfaits. Nous voulons que Dieu nous en débarrasse. Nous ne pouvons plus nous accommoder du péché. Nous voulons que le Saint-Esprit nous transforme, nous change, nous purifie. C'est une aspiration au plus profond de nous. Et oui, laissons l'Esprit nous faire avoir horreur du péché. Et quand malheureusement nous péchons, quand même, ça arrive même peut-être chaque jour, nous le regrettons. Nous demandons sincèrement pardon. Et alors fidèlement, Dieu nous pardonne et nous purifie effectivement, nous relève à chaque fois, jusqu'à 70 fois, 7 fois, le même péché, à l'infini, quoi. Ouf, merci Seigneur. Il y a bien une différence entre quelqu'un habité par l'Esprit de Dieu, le chrétien, et quelqu'un qui n'est pas habité par le Saint-Esprit. Par la grâce divine agissant en nous, ne soyons ni religieux, ni superstitieux, ni spirituellement hypocrites. Soyons réalistes. Et réjouissons-nous et soyons reconnaissants du pardon, de la miséricorde, de la patience de Dieu à notre égard. C'est une grâce et un immense privilège à vivre. Mais revenons à Michée. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur ? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes ? Avec des taurillons d'un an ? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile ? Michée se met à la place du peuple, ou peut-être se met-il à la place du roi et des grands du royaume, et se pose une question, se pose des questions. C'est une forme un peu rhétorique, mais il se demande comment venir devant Dieu. Comment se présenter devant lui ? Voulant plaire à Dieu, il se demande quel geste méritoire pourrait être le bon. En substance, qu'est-ce que je dois amener à Dieu pour lui être agréable ? Et c'est une bonne question. C'est une saine motivation d'avoir cela comme question. Et puis, je suis prêt à ne pas regarder à la dépense. Est-ce que des grandes quantités feront l'affaire ? Je peux multiplier les holocaustes, et avec des animaux de qualité. Est-ce que c'est bon ? Non, c'est pas bon. Ni la quantité, ni la valeur commerciale de ce que nous offrons à Dieu ne sont des critères pour Dieu. Michée, grâce à l'Esprit de l'Éternel, a bien compris cela. On voit aussi dans une petite anecdote avec Jésus, quand il regarde les gens dans le temple venir et mettre les choses dans le tronc, les offrandes, quand il regarde la pauvre veuve et les riches qui passent, lui aussi connaissait bien les intentions du cœur de chacun. Mais je peux même pousser le sacrifice à l'extrême limite. Donnerais-je mon premier-né pour ma transgression ? Donnerais-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché ? Et si je sacrifie ce qui m'est le plus cher, mon fils premier-né ? Cela ne traduirait-il pas une consécration exemplaire au Seigneur ? Cela lui agréerait-il ? Cela lui suffirait-il ? Rien ne peut se dépasser ce sacrifice-là, non ? C'est bon ça, non ? Non, ce n'est pas bon. Dieu a en horreur ce genre de sacrifice humain. Ce sont les nations païennes de l'époque qui, dans leur culte idolâtre, pratiquent cela. Et Dieu aime évidemment trop ses créatures, l'être humain, pour vouloir cela. Pourtant, Akaz, le père du roi Ézéchias, a pourtant fait ce genre d'horreur que dénonce à sa façon Michée. On le voit dans le livre des rois, qu'il faut vraiment lire en parallèle de ce livre du prophète Michée. Deux rois, chapitre 16, Akaz, donc le père du roi Ézéchias, qui lui s'est humilié, s'est repenti et a changé, lui ne fit pas ce que l'Éternel, son Dieu, considère comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël. Il alla même jusqu'à brûler son propre fils pour l'offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les nations païennes, que l'Éternel avait dépossédées en faveur des Israélites. L'homme est prêt aux pires horreurs en croyant plaire à Dieu. Vu du XXIe siècle, ce sont des pratiques qui nous dépassent sûrement. Mais à la lumière de ce verset, on peut vraiment comprendre aussi la colère de Dieu contre Judas. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Ce verset est un havre de paix en contraste avec ce que l'on vient de lire. Et je relis aussi ce verset dans une autre version pour en saisir d'autres nuances et saveurs. C'est vrai que les traductions de l'hébreu sont parfois difficiles, alors on peut trouver différentes facettes du même verset dans différentes versions. On te l'a enseigné. On te l'a enseigné, ô homme. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. On lui a enseigné, il devrait le savoir, mais apparemment l'homme est oublieux, très vite oublieux. Peut-être que cet enseignement se réfère à celui de Moïse. C'est vrai qu'on pense vite à la loi, on voit des interdictions, des obligations, des commandements. Mais il y a un petit verset de Deutéronome qui dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ?» Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Obéir aux commandements de Dieu, certes, suivre ses prescriptions est une chose, mais si la motivation de base n'est pas l'amour de Dieu, un amour total, alors c'est du vent, du paraître, de l'hypocrisie. Peut-être que l'enseignement auquel Michée a fait référence est plutôt celui des autres prophètes de son temps, ceux qui ont enseigné ou commencé à enseigner peu de temps avant lui. Il y a Amos, par exemple, qui a particulièrement insisté sur la pratique du droit et de la justice sociale. Ou encore Osée, prophète de la bonté et de l'amour. Ésaïe, qui a particulièrement dénoncé l'orgueil de l'homme, qui place sa confiance dans ses ressources propres et qui ne vit pas selon le chemin que Dieu lui indique. Peu importe, en tout cas, Dieu le dit déjà dans la Bible depuis longtemps, très longtemps, depuis toujours. Par son esprit en guidant Moïse, 700 ans avant Michée, Dieu l'a dit et redit à travers tous les prophètes, et Dieu l'a encore rappelé et même mis en pratique, 700 ans plus tard, par Jésus le Messie. De tout temps, Dieu veut la même chose et la même attente de sincérité. Dieu ne change pas, et je vous le dis, je vous le redis, et je vous casse les oreilles avec ça même. L'aveuglement spirituel a fait que les hommes veulent offrir tout et n'importe quoi à Dieu, sauf ce que Dieu veut, à savoir tout simplement un engagement spirituel de tout cœur. Un engagement spirituel de tout cœur, conscient de ses limites, conscient de ses manquements, mais confiant, confiant dans l'aide de Dieu. Et c'est de cet engagement de tout cœur que les attitudes justes suivront. Ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance ou modestement tu vives pour ton Dieu. C'est des choses simples à faire pourtant, non? Ce ne sont pas toujours des choses qui nous sont naturelles. Et même plutôt, ça serait hors de ma portée bien souvent. C'est bien pour cela que Dieu nous a donné son esprit, comme c'était rappelé dans la présidence. Ce que Dieu requiert, ce que Dieu trouve bien, ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est l'action régénératrice de Dieu lui-même, de l'esprit en nous qui nous permet de le vivre, si nous voulons bien le laisser faire. Seul l'esprit le rendra possible. Dieu définit la fin, Dieu donne aussi les moyens. On l'a chanté tout à l'heure, « Là où est ton esprit, là est la liberté. » Liberté de pouvoir faire ce que Dieu demande de nous, pouvoir être libéré du joug de l'esclavage du péché, seul l'esprit en nous peut permettre cela. Pour marcher de gloire en gloire, on l'a aussi chanté. Des fois, on se dit, ouais, bah, pas très glorieux la gloire, mais en tout cas celle que j'expérimente. C'est pourtant ce que Dieu nous propose, ce que Dieu veut que nous vivions par son esprit. Et en conclusion, je lirai simplement la prière de Michée à la toute fin de son livre. Et quand je vais lire cette prière, je vous invite à vous réjouir vraiment, parce que cette prière est accomplie. En son temps, c'était encore une prière prophétique. De nos jours, c'est une réalité accompli en Jésus-Christ. Et Dieu a mis en œuvre cette promesse. Nous en sommes au bénéfice. Gloire et reconnaissance à notre Dieu. Michée chapitre 7, verset 18. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés, au fond de la mer tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis au temps ancien, à nos ancêtres. Amen. Dieu fait toujours ce qu'il promet. Est-ce que Michée a juste entrevu? Nous pouvons, nous, pleinement le voir maintenant, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vivons pleinement cette vie pardonnée, vivons pleinement la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, en communion parfaite avec Dieu. C'est en tout cas ce que Dieu propose, même si nous souvent on met des obstacles, on réduit le champ du possible. C'est son offre pour chacun et chacune d'entre nous, chacun et chacune d'entre vous. C'est son programme pour nous. Chaque instant, pas seulement en quelques minutes le dimanche matin. Non, nous n'avons pas la force ou les qualités personnelles pour y arriver. Mais, tu veux mettre la dernière slide de conclusion ? Pedro. Avec l'aide du Saint-Esprit en nous, Michel l'a déclaré, lui, le Saint-Esprit à l'époque venait de manière exceptionnelle, mais maintenant c'est une promesse pour tout chrétien. Avec l'aide du Saint-Esprit en nous, par son action puissante, oui, nous pouvons, c'est la volonté de Dieu, c'est son objectif pour nos vies, nous conduire avec droiture. Nous pouvons prendre plaisir à témoigner de la bonté, on l'a chanté aussi, on l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et avec vigilance, nous pouvons vivre pour notre Dieu. Vous y croyez, vous ? Merci de ton aide, Seigneur. Merci pour cette promesse. À toi toute la gloire dans nos vies. Amen. Et je vous invite à prier encore. Seigneur, nous avons trop tendance à regarder à nous-mêmes. Évidemment, on voit des manquements, on voit des fautes, on voit des choses qui ne vont pas. Aide-nous à regarder davantage à toi et à te laisser prendre plus de place en nous. Saint-Esprit qui est vivant en nous, oui, comme on l'a déjà prié, chanté, dit, fait que nous ne soyons pas satisfaits de te laisser juste dans un recoin, ou même dans 50% ou dans 99% de nos vies, mais prends toute la place, et prends toute la place dans la mienne. Pardon pour toutes les fois où je te mets à l'écart, toutes les fois où je dis « Ah, c'est bon, hein, j'ai fait ce qu'il fallait ». Donne-moi vraiment un cœur d'amour pour toi, par ton amour que tu déverses en moi. Un cœur d'amour pour les autres, par ton amour que tu déverses en moi. Merci pour le magnifique programme de vie que tu nous proposes, que tu me proposes. C'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que je veux être mon objectif, Seigneur, et que je veux aussi partager autour de moi. Merci pour ton aide. Merci pour ta bienveillance, pour ton pardon, pour ta fidélité, pour ta patience. Merci parce que tu veux que je vive cela. Bénis chacune et chacun ici ce matin. Fortifie-nous, encourage-nous, garde-nous par ton esprit et que nos vies soient à ta gloire. Merci pour Jésus-Christ qui a permis et rendu cela possible par son sacrifice à la croix. À toi toute la gloire, le Seigneur. Amen.